Backstage le podcast. Ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Et vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com. Et aujourd'hui, deuxième épisode de l'entretien consacré à la traductrice José Camoun, au micro donc de Margot Delpierre sur un montage de Thomas Langlin. Un entretien, je le précise, enregistré en décembre 2018.
Est-ce que rencontrer l'auteur, ça influence votre travail?
Ah! Alors là, c'est une question intéressante, mais à laquelle il ne va pas y avoir de réponse. Connaître l'auteur, c'est-à-dire par exemple connaître son humour en dehors de ses romans même. Il y a deux soirs, j'ai dîné avec Jonathan Coe et deux autres britanniques, enfin un franco-britannique, c'était un dîner extrêmement distrayant. Le fait d'entendre Jonathan à l'extérieur de ses romans, je dirais c'est plutôt que ça complète et ça... Ça confirme l'idée que je me fais du ton de ces romans. Vous voyez, la voix d'un auteur, la voix physique, matérielle, hein, audible d'un auteur, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, est-ce que ça influence? C'est difficile à savoir parce que c'est un tout aussi. Hein, de quelle manière ça percole ce à quoi j'étais très sensible chez Roth, par exemple, c'était son élégance. Y compris son élégance vestimentaire, l'élégance de ses gestes. Il fallait que quelque chose de ça soit traduit, je suppose. C'est difficile à dire.
Ou peut-être que ça vous influence, mais inconsciemment.
C'est pour ça, c'est exactement ce que... Oui, c'est ce que je veux dire. C'est un tout. De quelle manière ça percole, difficile à dire.
Qui est l'auteur le plus dur que vous ayez eu à traduire?
À peu près au début de ma carrière. Ça faisait une dizaine d'années que je traduisais, pas plus, peut-être un peu moins. Gallimard me propose, et c'est ainsi que je suis entrée chez Gallimard, un texte extraordinaire qui s'appelle Fishboy, et que j'ai appelé en français Fishboy, le dit du jeune fantôme, où on a un personnage monstre hybride, on ne sait pas si c'est un enfant ou un poisson, qui s'en va à bord d'un chalutier dont l'équipage est composé de marins qui ont tous tué un membre de leur famille. Oui, c'est déjà une situation assez surréaliste. C'est de la prose poétique qui est, alors, pour le coup, extrêmement polysémique, incantatoire, avec des rythmes extraordinaires. Donc ça, c'était un sommet de difficulté. Après, on a d'autres sommets de difficulté. On a parfois des sommets de difficulté devant une œuvre, au contraire, linéaire, sobre, dépouillée, et où vous devez essayer de retrouver le même dépouillement. Hein. Je pense que Canada était un livre de Richard Ford. C'était un livre extrêmement difficile à traduire, surtout la fin, où véritablement, d'ailleurs avec la préparatrice, hein, le traducteur, il n'est pas si seul qu'on se le figure, il a des préparateurs derrière lui. Avec la préparatrice, on s'interrogeait vraiment sur ce que Ford avait voulu dire. Et Ford a beau être vivant, est un excellent homme, urbain, charmant, etc. Il ne faut pas trop compter qu'il vous éclaire ou vous départage, parce que précisément, je pense que le mystère fait partie de cette écriture.
Et il y a une autre sorte de difficulté, c'est la pression quand vous traduisez des gens aussi célèbres que Philip Roth ou Virginia Woolf, parce que vous avez traduit, je crois, des nouvelles.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il n'y a pas de la pression sur vos épaules de vous dire « Oh là là, on me confie de grandes œuvres ».
Mais si, et pour Virginia Woolf, j'étais alors vraiment encore assez jeune, hein. Je venais de commencer à traduire, et c'est un collègue de l'éducation nationale avec qui j'étais en train de faire passer un concours, qui à table, je lui raconte qu'on me propose ces nouvelles de Woolf et que je suis très impressionnée, je n'ose pas trop accepter, j'ai peur évidemment d'échouer lamentablement. Et bon, il se tamponne la bouche avec sa serviette et il me dit « mais c'est pas très grave ». Comment ça, c'est pas très grave? Ben non, c'est pas très grave. Si vous ratez, vous recommencerez dans 10 ans. Ou alors, quelqu'un d'autre réussira derrière vous. Ben, je crois que ça a été une de ces paroles venant d'un étranger qui font de vous un héritier, une héritière, et que vous gardez précieusement toute votre vie. Si j'échoue, je recommencerai. Et ce que j'ai pas réussi à faire, d'autres le feront.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous rêvez de traduire?
Mais bien sûr, il y en a plein. Mais c'est un rêve. Alors, c'est un rêve parce que quand même, par exemple, Cormac McCarthy, je trouve une prose extraordinaire. Il a un très bon traducteur et tout va bien. Faulkner, je pense qu'il faut retraduire Faulkner, qui a été d'ailleurs magistralement traduit, hein, mais ça n'empêche. Je dis parfois pour rire, mais à moitié pour rire, que quand je penserai qu'il faut quitter le métier parce qu'il est un peu tard, j'entreprendrai de traduire Moby Dick, rien que pour moi.
Pour votre plaisir.
Ouais.
Vous avez encore le temps de faire ça, de traduire pour votre plaisir.
Ah, mais je ne traduis que pour mon plaisir. Et d'ailleurs, je vous dirais que dans l'ensemble, je n'ai traduit que pour mon plaisir parce que je n'en ai pas vécu. J'ai enseigné la littérature et la traduction a été pour moi un violon maigre. J'ai vraiment fait... Alors, je pense que c'est ce que je fais peut-être le mieux, sans aucune prétention. En voulant dire par là, c'est encore ce que je fais le mieux. Je dirais ça comme ça. Mais je l'ai toujours fait pour le plaisir, oui. Pas du tout pour des raisons alimentaires. Heureusement, d'ailleurs, ça nourrit mal son homme et sa femme.
Plus jeune, c'est déjà quelque chose qui vous faisait envie, la traduction, ou c'est arrivé sur le tard ?
Ah, pas du tout, pas du tout. Bah, d'abord, sur le tard, on ne peut pas dire ça. J'ai commencé, je devais avoir 34 ans, donc ça ne s'appelle pas sur le tard. Mais j'aurais pu commencer plus tôt si on me l'avait proposé. Oui, j'ai toujours voulu traduire. J'ai fait latin-grec, et à mon époque, latin-grec, et encore maintenant dans une large mesure, hein, c'était de la version, c'était de la traduction. Donc traduire était quelque chose qui m'était familier.
Et pourquoi l'anglais ?
Ma grand-mère est Mick Jagger. Alors évidemment, pour se demander quel est le rapport, mais vous allez le savoir tout de suite. Ma grand-mère était angliciste en son temps et elle avait été assistante française en Écosse à Auburn, une ville de pêcheurs que j'ai découverte il y a 2 ans. L'anglais était pour elle quelque chose d'assez fondamental. Et pourquoi Mick Jagger ? Mais parce que, étant donné ma génération, moi j'ai découvert l'anglais avec cette formidable vague du rock'n'roll et de la pop music. Et donc quand j'avais 14 ans, j'ai acheté... The Last Time, qui était un 45 tours des Stones, et je le mettais en boucle pour arriver à comprendre ce qui se disait, ce qui n'était pas un mauvais entraînement, entre nous soit dit. Toute cette musique que j'adorais, et qui représentait absolument la génération à laquelle j'appartenais, bah cette musique-là, elle avait des paroles, et les paroles étaient en anglais.
C'est de là que vient votre amour pour la langue anglaise ?
Oui, parce que j'y ai trouvé d'emblée, sans pouvoir mettre de mots là-dessus d'ailleurs, hein, un plaisir auditif extraordinaire, la façon dont la phrase était envoyée, modulée, un certain phrasé, Bob Dylan aussi a un phrasé extraordinaire. Hein. J'aimais ces sonorités, j'aimais les entendre et j'aimais les produire.
C'est une musique pour vous ?
C'est une musique et c'est presque, j'allais dire, j'avais un collègue hispaniste qui disait « L'anglais, c'est un plaisir buccal ». C'est assez drôle, mais il y a quelque chose de ça.
C'est quoi le premier texte que vous ayez traduit ?
Oh, c'était drôle. C'était le hasard heureux. C'était un texte d'un journaliste, un texte historique, enfin oui, une recherche historique, qui s'appelait « Versailles, passions et politiques ». Donc ça vous donne une idée un petit peu de l'ambiance de ce texte. Il était fort bien écrit d'ailleurs. Et il était émaillé de nombreuses citations de mémoires de Saint-Simon et autres, Madame de Sévigné et autres chroniqueurs, bien sûr, qui avaient pu traverser Versailles. Et c'était très amusant à faire, très distrayant.
Ça vous a donné envie de continuer ?
Ah, mais j'avais déjà envie ! Donc ça tombait à point nommé et en effet, ça m'a donné envie de continuer, bien sûr.
Comment vous travaillez alors ? Vous travaillez depuis chez vous ?
Je travaille chez moi. Dans mon antre bibliothèque, à moitié allongée sur mon canapé façon récamier.
Ça a ses avantages d'être traducteur, de travailler à la maison, d'être dans un environnement confortable ?
Oui, et c'est très important pour avoir sa tête à soi, je dirais. Hein, il ne faut pas avoir de bruit, il ne faut pas avoir de perturbations. Maintenant, je me réjouis d'avoir fait autre chose dans ma vie parce que c'est quand même un travail de bénédictin. Ça le devient moins, nous sommes moins isolés justement grâce à des initiatives comme la vôtre et un certain nombre d'autres, des festivals, des colloques, des rencontres de tous ordres, mais c'est quand même un métier de bénédictin, hein. Vous êtes là avec votre ordinateur, vous n'avez même plus besoin d'avoir une pile de dictionnaire, oui, vous êtes vraiment, j'allais dire, avec le cordon de votre ordinateur, et donc il faut avoir... Faut avoir des contrepoisons quand même, hein. Donc des antidotes, disons. Moi, j'arpente la ville. C'est ce que je fais lorsque, ça y est, la cocotte boue, là, voyez. Donc je pose mes affaires et je m'en vais arpenter. Et je vois du monde, bien sûr, hein, autrement. Mais je pense que c'est un métier qui favorise la tendance recluse de certains.
Ah oui, c'est-à-dire que si on est casanier... Ça n'arrange pas les choses.
Ah bah écoutez, vous avez vos bouquins pour bien faire, vous avez un chat, vous avez l'ordinateur, pourquoi iriez-vous sortir ?
Un petit café, une tasse de thé.
Et puis la télécommande, et puis de quoi commander des pizzas et des sushis, il n'y a pas de raison de sortir les gars.